France Inter.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau, chaque samedi, une heure ou presque, pour prendre du recul sur les grands bouleversements de notre époque. Cette semaine, on a la chance d'accueillir le youtubeur français qui s'est retrouvé dans le bureau ovale à poser la question au président Trump.
Mr. President, you called Zelensky a dictator. Would you use the same words regarding Putin?
I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens.
Il n'a pas vraiment répondu. Hugo Travers, alias Hugo Décrypte, 14,5 millions d'abonnés cumulés sur les réseaux sociaux, a pu couvrir de très près le voyage officiel du président Macron à Washington. Il nous racontera. 10 ans après la création de sa chaîne YouTube, le journaliste s'est rendu incontournable auprès du grand public, devenant l'une des sources d'infos les plus suivies de France. Dans un contexte d'hyper-accélération de l'information, de dérégulation médiatique, le journalisme est sans cesse challengé. Alors dans ce Big Bang médiatique, quelle planète sont en train de se former et quid de la bonne vieille télé? Pour répondre à cette question, nous avons aussi l'honneur d'accueillir un historique de la TNT et créateur de la chaîne BFM TV il y a 20 ans, le propriétaire de l'Express Alain Veil. Et puis, on s'intéressera cette semaine à un autre monde chamboulé, voisin des secousses télévisuelles. Le foot.
On est en plein cœur de notre thème, le football français. Est-il en train de mourir? Peut-il mourir? On se pose vraiment la question parce que c'est presque souvent de pire en pire.
Depuis quelques mois, on témoigne cet extrait de l'Équipe TV. Le football français est en crise. Le principal diffuseur des matchs de Ligue 1, la plateforme britannique DAZN, n'a pas assez d'abonnés. Elle a même tenté de ne pas payer les droits qu'elle devait à la Ligue. En parallèle, des fonds d'investissement rachètent des clubs historiques et les coupent parfois de leur culture, de leur région, de leurs fans. Un autre modèle moins centré sur le business, est-il la clé pour sortir de l'impasse? C'est la piste explorée par plusieurs chercheurs qui signent un petit livre passionnant. On en parle en deuxième partie d'émission. Big Bang médiatique et utopie footballistique. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Alors, c'est le moment de se dire au revoir. Je précise qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonne compagnie qui se quitte. Donc, on va tout faire pour se retrouver un jour, vous et nous tous. Je voudrais dire merci à Vincent Bolloré qui m'a fait venir ici il y a 8 ans et à qui j'ai dit oui tout de suite parce que c'était lui. Et puis, merci à ceux qui m'ont permis de travailler ici en toute liberté, dans ce groupe-là. Et je ne vous dis pas à demain, je vous dis à bientôt et je vous dis comme chaque jour, bon après-midi. Bon, eh ben, j'éteins.
Ça s'est passé ce jeudi. Visage des midis de C8, l'animateur William Lémergie, très ému, éteint les lumières de son studio. La décision du gendarme de l'audiovisuel, l'ARCOM, est effective depuis quelques heures. Plus de chaîne C8 ni de chaîne Énergie 12 sur la TNT, la télévision numérique terrestre. À la place, un message indiquant qu'en juin, les téléspectateurs pourront retrouver de nouveaux programmes sur ces canaux. Un nouveau bouleversement qui se répercutera sur le reste du paysage médiatique. On a eu envie ce soir de faire monter 2 invités en vigie pour scruter l'horizon et l'avenir de l'info en France. Bonsoir Alain Veil.
Bonsoir.
Vous êtes le propriétaire de l'Express, je le disais, connu pour avoir aussi relancé RMC et créé BFM TV en 2005, 10 ans avant Hugo Travers. Bonjour.
Bonjour.
Bonsoir. Hugo Décrypte, la création de votre chaîne YouTube depuis son lancement. Vous êtes devenu l'un des journalistes, si ce n'est le journaliste le plus suivi de France. D'un mot à tous les deux, qu'est-ce que l'arrêt de ces deux chaînes, Énergie 12 et C8, vous inspire? Alain Veil, on commence avec vous.
Bah, c'est un échec terrible. C'est un échec à la fois pour le régulateur et à la fois pour les propriétaires des chaînes. Pour le régulateur, parce que ces deux chaînes, symboliquement, on ne l'a pas beaucoup dit, mais sont les deux chaînes pionnières de la TNT. C'est-à-dire qu'elles ont été lancées en 2005. Les deux propriétaires de ces chaînes étaient vraiment des militants de la TNT qui ont vraiment voulu le changement de la télévision, le lancement de la TNT. Et donc, ils ont été les deux premiers quasiment à obtenir une chaîne de télévision. Et finalement, ils sont les deux premiers à sortir 20 ans après. C'est quand même un terrible échec. Soit le régulateur s'est trompé, soit les éditeurs ont mal géré leur projet. Sans doute les deux. Mais arriver à ce résultat, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de normal. La chaîne C8 était la chaîne leader de la TNT. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde ou on arrête une chaîne leader. Alors après, sur le plan juridique, du point de vue de l'ARCOM, il y avait des raisons, les mises en demeure, les fautes répétées de la chaîne, mais il y a quand même un problème de management du projet des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire et du régulateur et des éditeurs, pour arriver à cette situation qui n'aurait, à mon avis, jamais dû arriver, parce que les perdants dans cette affaire sont les téléspectateurs qui ne comprennent pas, qui regardaient cette chaîne, qui l'appréciaient, et qui la voit disparaître. Et finalement, l'impact ne sera pas positif sur l'opinion.
Oui, donc C8, c'est la chaîne d'Hanouna aussi, principalement, qu'on retrouvera au sein du groupe M6.
Alors, tout ça pour arriver au fait que Hanouna passe du 8 au 9.
Donc
c'est ce qui va se passer. Donc c'est quand même un constat pour moi d'échec global réel.
Hugo décrypte le point de vue du YouTuber sur cette affaire télévisuelle.
Sans avoir de point de vue d'ailleurs sur Cyril Hanouna ou sur l'émission.
Oui, parce que c'est lui en tout cas qui a été souvent rappelé à l'ordre, puisque vous parliez de ses coups de sifflet de l'ARCOM.
J'ai suivi ça de loin, parce que je ne regarde pas forcément fréquemment la télévision, mais on avait forcément suivi les décisions de l'ARCOM, les mises en demeure et toutes les amendes et les sanctions au fil des années. Une chose, au-delà de tout ce qui a été dit, qu'on peut observer, c'est que Cyril Hanouna, il me semble, a annoncé que Touche pas mon poste allait continuer pendant quelques jours ou quelques semaines.
Zoubida TV.
Et notamment sur les, donc sur les réseaux sociaux.
Une chaîne numérique, ouais.
Donc y compris sur Dailymotion, je ne sais pas quelle audience ils auront là-bas, mais sur YouTube aussi. Donc je suis assez curieux de voir dans quelle mesure en fait, une émission comme ça arrivera à toucher un public sur YouTube dans les prochaines semaines. Ce sera intéressant à observer.
Et puisqu'on parle de Cyril Hanouna, est-ce que d'une certaine manière, vous, votre point de vue justement de YouTuber, vous ne pouvez pas nous dire le ton de Cyril Hanouna? Est-ce qu'il s'inspire au fond, d'une manière un peu comme ça, avant tout le monde, du ton de YouTube en l'important à la télévision, de faire une télécommunauté, de chérir ses fans comme on chérit ses abonnés.
Je pense que ça a toujours existé, même à la télévision. Je pense qu'il y a toujours eu parfois des liens qui se faisaient entre des animateurs et un public, et d'ailleurs pas que à la télévision, aussi à la radio et dans tous les médias. Avant l'arrivée de YouTube, je pense qu'il y a toujours eu des émissions de débat. Alors après, j'ai pas connu toutes les émissions pendant des dizaines d'années, mais j'ai
et
le sentiment que c'est...
Vous avez 27 ans, il faut le rappeler quand même.
Non mais l'impact du digital sur la télévision est sans doute réel aujourd'hui, parce que...
Il y a quand même une porosité.
Le monde du digital est un monde plus ouvert, plus libre, moins régulé. Et donc, finalement, la télévision est impactée par ce phénomène. Et dans le groupe Bolloré particulièrement, parce que c'est vrai pour CNews aussi, qui est une chaîne qui a été contestée, que l'ARCOM, finalement, n'a pas sanctionné, mais aurait pu juridiquement sanctionner sans doute. Mais n'a pas osé le faire. Et sans doute a eu raison, parce que le monde a changé autrefois à la télévision, puisque vous utilisiez une fréquence appartenant au domaine public, vous ne deviez pas exprimer d'opinion. Sur le digital, c'est tout le contraire. Chacun exprime son opinion clairement. Et ça impacte la télévision.
Donc
C8,
il y a eu cet effet,
news,
on va dire, de subjectivité.
Oui, et donc le régulateur doit en tenir compte et la régulation doit évoluer aussi. Parce que sinon, la télévision, elle va être complètement déconnectée du monde du digital et être totalement fossilisée.
Donc un nouveau cadre qui prendrait en compte l'évolution qui vient.
Oui, parce qu'il faut que toutes les expressions soient exprimées à la télévision, mais être aussi rigide que par le passé, c'est sans doute impossible.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un effet, on l'a vu dans certaines enquêtes de politistes, des prises de parole politiques à l'Assemblée sont calibrées pour les réseaux sociaux, donc ça a changé la nature du discours au sein de l'hémicycle. Est-ce que Hugo décrit, par exemple, c'est quelque chose qui s'est fait aussi d'une certaine manière, dont on parle avec Alain Veil de la subjectivité, mais dans le format presque.
Je pense que avoir une punchline, une phrase forte qui va être reprise, ça fait longtemps que ça existe. Peut-être que les chaînes d'information, par exemple, ont accéléré ça. Les réseaux sociaux, évidemment, l'ont accéléré encore davantage. Je pense que ça pose aussi une question, du coup, alors peut-être des responsabilités des politiques. Après, c'est aussi un combat qu'ils ont dans la défense de leurs idées et dans la propagation de leurs idées. Ils savent que c'est efficace. Donc là-dessus, c'est chacun sa responsabilité dans la façon de communiquer. Par contre, en tant que média, c'est vrai que de notre côté, on est très présent sur les réseaux sociaux. Et donc, on est très vigilant aussi à la façon dont on va traiter ces sujets-là. Et particulièrement, peut-être qu'on en parlera aujourd'hui, mais y compris aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, avec une stratégie dans sa communication qui est clairement, sur certains sujets, de la provocation pour faire réagir, pour faire parler, et parfois des provocations qui s'enchaînent avec plusieurs par jour. Ça peut arriver aussi en France. L'enjeu pour nous en tant que médias, particulièrement sur les réseaux sociaux, c'est de se dire, est-ce qu'on relaie et est-ce qu'on informe sur chacune de ces sorties-là? Est-ce qu'on temporise parce qu'on juge que non, en fait, on participe autrement à quelque chose? Le plus important, et ce qui me paraît le plus essentiel, c'est de se poser la question, est-ce que ça dit quelque chose de plus profond derrière sur le fond? Et dans tous les cas, évidemment, de mettre en contexte à chaque fois ces sorties ou ces éléments dans un contexte d'explication de ce qui se joue.
Vous avez toujours dit, Godécrit, d'ailleurs, qu'une chaîne d'infos en continu, par définition, ça ne permet pas de comprendre un sujet si on ne l'a pas suivi dès le début, puisque c'est vraiment on va dire, la ligne de la clarté qui domine vos contenus sur les réseaux.
Je ne sais pas si je l'ai dit exactement comme ça, mais pour préciser ce que je veux dire par là, c'est vrai que j'ai lancé ma chaîne YouTube à l'époque, il y a quasiment 10 ans maintenant.
Et oui.
Parce que j'avais beau être passionné par l'actualité politique, par ce qui se passait dans le monde, j'avais parfois le sentiment de me retrouver face à une chaîne de télévision ou d'ailleurs parfois à un journal et de faire face à des invités ou à un format, en tout cas un dispositif d'un point de vue éditorial qui ne répondait pas forcément à mon besoin premier qui était, je sais pas, il y avait la guerre civile en Syrie par exemple à l'époque. Si je voulais réellement comprendre ce qui se jouait, c'est pas nécessairement en allumant une chaîne d'information à n'importe quel moment que j'allais avoir ces éléments de contexte rappelés jusqu'au fond, ces éléments en fait pour reprendre un sujet depuis le départ. Et je pense que cette dimension de mise en contexte et d'accessibilité, c'est quelque chose qui est essentiel et on essaie de le faire sur nos formats aujourd'hui.
La TNT, on lui aura presque réglé son compte dans cette première partie d'émission. En tout cas, c'est l'un des aspects de ce grand Big Bang médiatique qui est en cours. Vous restez avec nous, on se demandera si l'info y survivra.
J'hallucine, je vois des chicots dans mes cornflakes. Maradona les moves, l'amour du beau geste. C'est pour tous ceux qui me connaissent, qui me le diront direct le jour où je deviens trop gaze. On m'arrête pas, je progresse. Je mérite 1 million et encore je reste modeste. On fuck contre nous, mais c'est pas la noblesse. Grosse tête, c'est moi, sur les statues all mec. Premier mouvement de biche, la deuxième trilogie. SF Music, on y va. Je règle dans mon salon, les fenêtres ouvertes. J'entends les bébés dans les poussettes et les scooters. La prod et le mix, j'aime faire les choses par moi-même. Je préfère acheter un gun que de payer un shooter. C'est facile de parler sur les autres, c'est difficile de parler avec mon père. Avant je pouvais bouger gratuit pour faire 3 sons. Mais là je suis fatigué parce que j'enchaîne les concerts. Très fatigué, quand je dors je rêve du pacte. Elle fait que te lâcher des passes, hey. Ces rappeurs s'inventent des lives, toujours le même bail. La bibi la détaille, et je te passe les détails. Je marche pas, je flotte, get le airtype. Aller-retour dans le sud, je rentre au Berkay. Là-bas on vit lentement, c'est pas la New York minute. Jeune crack, c'est moi dont tes potes discutent. Mon son il tourne, je suis sur écoute comme Paul Bismuth. Ils ont niqué le futur, ils nous demandent ce qu'on veut faire plus tard. Demande à un aveugle sa couleur préférée. Je rentre pas dans leur cadre, comme une frappe à Dembélé. Je peux épeler, paire d'Azix avec les lacets desserrés. Et j'en ai des trucs à dire, ma gueule, je m'arrêterai pas. Soit t'épargnes toute ta vie, soit tu braques la caisse des pannes. Je n'ai qu'une parole, elle fait que te lâcher des bosses. Peut-être que je suis blessé, mais là je me sens surtout blessé. Ma meuf fait ses tresses pendant que je suis sur mon PC. Mon pas tes faiblesses, ils vont s'en servir pour te baiser. Ils voudraient que je perce, comme si j'étais pas déjà assez stressé. J'ai la faire tourner mon bis, il n'y a que la terre qui tourne toute seule. Ma gueule, j'ai trop d'empathie, je peux pas laisser ce flou tout seul. J'ai déjà trouvé ma meilleure base, sauf que j'ai oublié de la noter. J'ai les frais tout payé à l'hôtel, pourtant je n'ai pas oublié de la noter.
Il a 23 ans et il a déjà construit un modèle à part dans le secteur du rap, à cheval entre une ancienne et une nouvelle école, sans recherche de viralité, quasiment sans donner d'interview. Ce garçon d'Albi, dans le sud-ouest, avance doucement mais sûrement, avec des productions faites maison très remarquées. C'était H, jeune crack sur France Inter. Et ce titre qui résume sa ligne, le beau geste.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
ravie de parler avenir de l'info. Si c'était notre bandeau, ce soir avec Alain Veil, créateur historique de BFM TV et propriétaire du magazine L'Express, Hugo Travers, alias Hugo Décrypte, plus de 14 millions d'abonnés cumulés et un des médias d'information les plus suivis de France. Hugo, j'aimerais revenir sur votre parcours. Alors, parce que peut-être qu'en tant que vieux média, parfois la radio aussi a envie de s'inspirer des nouveaux formats, mais surtout, ça raconte vraiment une mutation du modèle de l'information. Vous êtes lancé sur le réseau, on le rappelait, il y a 10 ans, dans votre chambre, c'est le classique. On va écouter un extrait d'une de vos premières vidéos. C'était un an après la création de votre chaîne, on est en 2016.
Le 30 janvier, des milliers de Français marchaient dans la rue contre le projet de déchéance de nationalité, mais aussi contre la prolongation de l'état d'urgence. Pour les mêmes raisons, la ministre de la Justice, Christiane Taubira, a quitté le gouvernement il y a quelques jours. Mais qu'est-ce que l'état d'urgence et pourquoi son maintien est-il contesté? Ça risque de pas être la vidéo la plus fun de ma chaîne, mais ça me semblait important de faire une vidéo pour y voir un peu plus clair.
Vous vous souvenez de vous?
Oui, bah ça fait bizarre, je ne viens pas de cette vidéo précisément, mais oui.
Vous êtes devenu donc incontournable depuis, embauchant toute une rédaction, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de journalistes qui sont embauchés par les créateurs de contenu sur YouTube, qui sont devenus des rédac-chefs, avec un autre rédac-chef derrière, qui est l'algorithme aussi de la plateforme. Et vous êtes tout juste rentré du bureau ovale, vous y étiez, vous avez posé, en le disant sommaire, la question à Donald Trump, s'il traite Zelensky, le président ukrainien, de dictateur, que pense-t-il de Poutine. Quels sont les piliers du modèle Hugo Décrypte, ceux de 2016 et ceux qui sont toujours là en 2025?
Je pense que le pilier le plus important, au-delà de la question évidemment des formats, oui, il faut être, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut comprendre ses codes, il faut passer du temps soi-même sur les réseaux sociaux pour pouvoir adopter tout ça, mais le plus important, je pense que c'est une question d'écriture et une question de fond, et c'est pas forcément ce qui est le plus visible ou le plus marquant comme ça quand on suit un compte, mais en réalité, je pense qu'avec l'équipe, on a une dizaine de journalistes aujourd'hui au sein de l'équipe, il y a une très grande vigilance depuis le premier jour à s'assurer que ce que l'on écrit est clair, ce que l'on écrit est accessible. Et je le dis dès maintenant, créer un contenu qui est accessible, ça ne veut pas forcément dire faire quelque chose de simpliste, faire quelque chose de réducteur. On a des formats aujourd'hui d'1 heure, 1 heure et demie sur YouTube. Mais c'est toujours se poser cette question. Si quelqu'un veut suivre ce sujet pour la première fois, est-ce que c'est quelque chose qui va être clair? Et juste pour préciser là-dessus, j'ai le sentiment que c'est souvent quelque chose qui n'est pas aussi valorisé dans une rédaction, dans un média. C'est vrai que c'est très facile de valoriser le scoop, parce que c'est évident, c'est clair. C'est très facile de mettre en avant en quelque sorte une exclusivité sur une interview qu'on va avoir ou autre, mais cette dimension-là d'accessibilité, elle est moins tangible d'une certaine façon. Nous, on a la chance d'avoir les commentaires de ceux qui nous suivent et qui nous disent ça j'ai trouvé ça clair, ou ça j'ai pas compris, est-ce que vous pouvez le préciser? Et c'est aussi une force pour nous, ce dialogue avec ceux qui nous suivent, pour s'assurer qu'on en fait ce travail-là comme il faut.
C'est la clarté qui domine dans le modèle d'Hugo Décrypte, c'est peut-être aussi en accord avec la demande des Français, puisqu'on est dans un contexte, on le répète jamais assez, mais de défiance, de fatigue informationnelle. 62% des Français interrogés estiment qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur l'actualité. On préfère l'information vérifiée ou pas d'un proche que celle d'un grand média. Ça, c'est le baromètre La Croix, Verian, La Poste, baromètre annuel. À l'inverse, c'est assez fou de voir que ça progresse chaque année de point en point. C'est quoi le loupé des grands médias? On ne sait pas bien exactement ce que ça désigne d'ailleurs toujours, mais c'est quoi le grand loupé?
Non, je crois que ça exprime sûrement une réalité, et en même temps, ça va à l'inverse de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, quand il n'y avait que les médias publics, c'était beaucoup plus tranquille dans le monde des médias. Et pour les hommes politiques, ça, on en discute tous les jours. Je l'ai même dit d'ailleurs à un ministre un jour, je lui ai dit « mais vous regrettez le temps de l'ORTF ?» Et il s'est rendu compte que c'était vrai, donc ça l'a énormément énervé, parce que c'était beaucoup plus simple qu'à l'époque des réseaux sociaux. Et donc, si on dit aux gens, mais est-ce que vous préféreriez être, il y a 50 ans, quand le directeur du service politique de TF1 allait à l'Élysée pour préparer le voyage à l'étranger du président de la République, tout était beaucoup plus simple. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais je crois que pour la démocratie, c'est quand même beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux pour la démocratie, et en même temps, on voit
avec
qu'il y a
des plus et des moins, comme toujours.
Il y a aussi une hausse de la désinformation.
Oui.
Comment est-ce qu'on interprète un slogan comme « You are the media now » d'Elon Musk, donc milliardaire, actuel ministre américain de l'efficacité gouvernementale. C'est le Dodge. You are the media now, vous êtes le média maintenant. Est-ce qu'on peut en continuer à lutter contre la défiance si toutes les prises de position et de transmission de l'information sont au même niveau ?
Les réseaux sociaux, ils ont beaucoup d'avantages, il y a aussi des inconvénients. Est-ce que le monde serait meilleur sans X, sans Instagram, sans les autres réseaux sociaux ? Je ne crois pas. Il y a aussi plein d'avantages au quotidien dont on profite tous et qui font notre plaisir. Après, il y a peut-être des choses à organiser. La transparence, notamment, des interlocuteurs qui s'expriment sur le web, le fait qu'il y ait aujourd'hui un anonymat total, moi, ça me surprend. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit possible de faire autrement, mais c'est un des problèmes, par exemple. Mais je pense quand même que le bilan est largement positif.
Le bilan est positif. Hugo Décrypte, vous êtes pas un média pour les gens qui vous suivent. Ils vont suivre l'information d'Hugo Décrypte. C'est encore autre chose. C'est une incarnation que vous avez construite. En même temps, c'est pluriel. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens derrière, mais vous avez choisi d'être quand même la marque. C'est vous.
Pendant longtemps, j'étais le seul à incarner ces contenus-là qu'on faisait. Et aujourd'hui, alors non seulement il y a des journalistes en coulisses, en quelque sorte, qui travaillent avec moi sur la chaîne, mais il y en a aussi de plus en plus qui incarnent maintenant des contenus à l'écran. Alors c'est le cas sur, typiquement, si on prend le cas de contenus sur Instagram, donc les Reels ou sur TikTok, donc des formats courts qu'on publie, je dois incarner peut-être 10 à 15% de ces contenus-là aujourd'hui. Les autres sont tournés par des journalistes de l'équipe. De la même façon, on a lancé un nouveau média l'an dernier qui s'appelle Élan, qui vise à aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle et à les accompagner dans cette vie adulte. Là, je n'incarne aucun contenu. Donc, c'est des journalistes de l'équipe qui incarnent l'intégralité.
Donc, finalement, vous êtes sorti progressivement de cette incarnation.
Alors, je continue
incarnation.
Évidemment à incarner des choses. On le disait à l'instant, j'étais à Washington cette semaine pour faire un reportage et j'incarne moi-même des interviews, nos formats d'actu du jour, etc. Mais il y a aussi l'équipe de plus en plus qui incarne des choses. Je pense que ça montre aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure, que oui, l'incarnation, c'est peut-être un enjeu, un sujet, mais il y a avant tout une question de format, de ce qu'on propose finalement à ceux qui nous suivent. Et aujourd'hui, je pense que le format est plus important finalement, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. On voit aucune baisse d'audience quand c'est un journaliste de l'équipe qui incarne.
Ni dans les retours de vos abonnés.
Absolument aucun, au contraire.
Il y a une confiance sur la marque Hugo Décrypte, en fait, qui s'est instauré progressivement. Alain Veil, vous avez vécu, on va dire, la défiance à l'égard de BFM TV au moment de la crise des Gilets jaunes. Il y avait une focalisation comme ça sur les bonnettes BFM TV qu'on chassait. Avec le recul, ça symbolisait quoi pour vous, ces violences-là ?
Parce que
là, pour le coup, c'était l'incarnation de la marque BFM.
Dans les périodes où l'actualité est très tendue, c'est toujours très difficile pour les médias qui sont rendus souvent responsables de tout. Et en fait, à l'époque des Gilets jaunes, c'était une période, c'est vrai, très difficile parce qu'on était très sollicités par les hommes politiques qui nous appelaient, qui nous reprochaient de filmer les événements le samedi. Après, il y avait des manifestants, des Gilets jaunes qui étaient sous nos fenêtres et qui criaient « Russia Today, Russia Today ». Et c'est ce jour-là où je me suis dit « Non, il faut qu'on fasse notre boulot ». On va pas laisser faire Russia Today. Et notre boulot, c'est de montrer la vérité. Donc, pas de se faire manipuler, mais de montrer la vérité, quelle qu'elle soit. Donc, quand il y a une manifestation violente, place de l'Étoile, on doit le montrer. Et quand il y a des mouvements importants, on doit les montrer, des samedis agités, jusqu'au dernier, où ils étaient une cinquantaine sur les Champs-Élysées. Et finalement, c'est vrai que c'était très dur à la fin de l'année 2018. Et puis, à partir de janvier, il y a eu le grand débat. On a beaucoup couvert le grand débat, l'ambiance était différente. Donc le climat avec le monde politique a déjà changé, notamment avec l'Élysée, parce qu'on couvrait beaucoup le grand débat.
Oui, qui était lancé par Emmanuel Macron. Et donc, Russia Today, pour préciser, c'est un média qui était, on va dire, d'obédience poutinienne.
Oui, absolument. Il y avait, je me rappelle, des vidéos de manifestants de Gilets jaunes, Place de l'Étoile, qui disaient « si on avait un chef de l'État en France comme Poutine, ça irait quand même beaucoup mieux ». Voilà. Donc nous, on a fait notre boulot, et puis finalement, quelques mois après, personne ne nous faisait plus de reproches. Et en mai 68, c'était exactement la même chose contre Europe 1 et RTL, qui étaient en direct, partout, dans des appartements au quartier latin, pour rapporter ce qui se passait dans la rue, les manifestations. Georges Pompidou leur reprochait d'être responsable des événements, mais non, ils racontaient la vérité, et puis tout ça a été vérifié, confirmé, et finalement reconnu quelques mois plus tard.
On va vous écouter en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, Hugo Décrypte.
Comment est-ce que vous voyez la façon de négocier avec Donald Trump aujourd'hui ?
Mon approche avec le président Trump a toujours été la même. Elle repose sur la confiance, le fait qu'on se connaît. On a été 4 ans ensemble. Il y a peu de leaders aujourd'hui qui, pendant 4 ans, ont eu à traiter avec le président Trump.
Je pense échanger souvent avec lui au-delà de ses rendez-vous.
Oui, on s'appelle directement plusieurs fois par semaine parce que c'est important. Et même si ça ne produit pas d'effet tout de suite, ça permet de comprendre comment on réfléchit l'un l'autre. Je pense qu'il ne faut jamais donner des leçons, jamais être dans la confrontation, mais jamais non plus laisser passer des fausses informations ou autres.
Le bruit derrière, c'est celui de l'avion. Donc vous êtes face à Emmanuel Macron. Hugo Décrypte, vous avez commencé, vous le disiez, en 2015, votre chaîne YouTube. Comment est-ce que vous êtes devenu cet interlocuteur privilégié, on va dire, qui obtient, on se souvient justement, puisqu'on parlait de l'ORTF tout à l'heure, des journalistes, des grandes chaînes nationales qui obtiennent la fameuse interview avec le président. Aujourd'hui, c'est à vous qui s'adresse dans l'avion. Comment ça s'est créé, ce lien de confiance, et pourquoi ?
Je suis pas sûr qu'il y ait un lien de confiance avec les politiques, et pour tout vous dire, c'est vrai qu'on fait très peu finalement d'interviews politiques. On a fait des interviews en 2022 de l'intégralité des candidats à l'élection présidentielle. On a fait récemment notamment une interview de Dominique de Villepin il y a quelques semaines qui revient, on a l'impression quand même dans le paysage politique ces derniers jours. Et pourquoi est-ce que d'ailleurs on en fait peu ? Parce qu'on considère que c'est pas toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Nous, dans nos arbitrages avec l'équipe, c'est vrai qu'on préfère faire une vidéo de 10-15 minutes ou plus longue pour analyser un sujet, plutôt que prendre ce même temps-là pour faire une interview politique tous les matins. Maintenant, dans ce cas précis, c'est vrai que ce qui se joue en ce moment est assez historique, avec ce qui se passe aux États-Unis, l'impact qu'on voit en Europe, et je trouvais ça intéressant du coup d'avoir cette interview quelques minutes avec le président de la République pour pouvoir l'interviewer sur ce sujet-là.
Que ce soit intéressant, bien sûr, mais qu'on vous l'accorde à vous, c'est que ça raconte aussi une évolution du champ médiatique.
Probablement, c'est vrai qu'en 2017, ma chaîne avait peut-être 2-3 ans, j'avais 150 000, 200 000 abonnés sur YouTube. Je ne vais pas vous mentir, on avait eu du mal à avoir certains candidats à l'élection présidentielle. On avait eu globalement, je dis ça avec des grosses guillemets, mais les plus petits candidats, ceux qui n'avaient quasiment aucune chance d'être élus à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé. Quasiment tous les candidats sont venus en 2022, par exemple. Je pense qu'ils sont conscients du fait qu'on est un des médias, si ce n'est le média le plus suivi aujourd'hui auprès des jeunes. Et ils voient l'intérêt de leur côté. De notre côté, l'enjeu à partir de là, c'est cette responsabilité éditoriale quand on reçoit une personnalité politique à faire ce travail journalistique et être exigeant là-dessus.
Qu'est-ce que ça raconte pour vous, Alain Veil, donc depuis vous avez créé BFM TV, cette évolution-là ?
Quand j'ai créé BFM TV, les hommes politiques ne venaient pas sur les chaînes d'information. Il y avait déjà LCI à l'époque et iTélé, mais au moment de la campagne de 2007, aucun candidat ne venait sur les chaînes d'information. Et c'est pour ça qu'on a mis Jean-Jacques Bourdin, qui était sur RMC, sur BFM TV. Comme ça, il venait sur RMC et il passait sur BFM TV. Qui d'ailleurs a rendu un jour François Fillon très mécontent parce qu'il n'avait pas compris qu'il passait.
Il était filmé
à la télévision. Donc on a été la première chaîne d'info à avoir des candidats à l'élection présidentielle. On les a tous eus. Et vous voyez, ça c'était en 2007. Et donc presque 20 ans après, maintenant, ils vont sur les sites d'information, sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, le président Trump a expliqué que pendant sa campagne, il avait plutôt privilégié des rendez-vous comme le vôtre ou sur des cibles plus âgées, pas que sur des cibles jeunes.
Oui. D'ailleurs, on dit que Kamala Harris, qui n'a pas fait le podcast le plus écouté du monde, celui de Joe Rogan, ça lui a coûté cher.
Peut-être. En tout cas, le monde change, donc il faut en tenir compte. On ne peut pas se comporter comme si on était il y a 25 ans. Quoi.
Comment est-ce qu'on construit du coup le modèle économique de ces nouvelles chaînes d'information que sont aussi les chaînes que vous avez sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ? Parce qu'il y a eu souvent une évolution vers le média classique qui devient, le sponsor de l'activité. Il y a évidemment la question de ce que Gaspard Gilles, un autre YouTuber, appelle les trucs qui ne sont pas annonceurs-friendly, c'est-à-dire des sujets qui vont, la guerre, le viol, qui vont être moins rémunérateurs pour les annonceurs, où ils ne se positionnent pas. Comment est-ce que le modèle économique se dessine dans ce contexte ?
Déjà, l'enjeu de notre côté, c'est d'être dans un modèle où on ne fait aucune impasse éditoriale sur les sujets importants, et même d'un point de vue de l'algorithme. C'est vrai que les premières années étaient compliquées, parce qu'on avait, sur YouTube par exemple, donc une des façons de se rémunérer quand on fait du contenu sur les réseaux sociaux, c'est les pubs, évidemment, qui vont s'afficher avant les vidéos, par exemple sur YouTube. Et c'est vrai que les premières années, moi je me souviens de situations très difficiles où en fait, dès qu'on parlait d'une guerre, dès qu'on parlait d'un conflit ou d'un sujet sensible, quel qu'il soit, et bien en fait, la vidéo était démonétisée et donc tout le travail qu'on avait fait à l'époque n'était pas rémunéré. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une évolution. Je pense qu'il y a eu des algorithmes peut-être qui se sont précisés du côté des plateformes, la prise en compte qu'il y a un enjeu, je pense, pour une plateforme comme YouTube d'avoir aussi des contenus d'information qui sont capables de vivre en quelque sorte sur cette plateforme-là. Et donc, heureusement, les choses ont quand même évolué, mais c'est vrai qu'il y a un enjeu à être présent du coup sur plusieurs réseaux sociaux, sur plusieurs plateformes, à être vigilant aussi à la façon dont les algorithmes évoluent. Et c'est un modèle qui peut être fragile dans certains cas. Il y a eu des exemples aux États-Unis qui étaient compliqués, y compris d'ailleurs en France. Nous, on a la chance de bien s'en sortir et bien fonctionner, et tant mieux pour nous, et on essaie de développer ce travail-là.
Et d'embaucher des journalistes d'ailleurs qui n'ont pas de place ailleurs dans les médias ou qui ne sont parfois pas écoutés, on va dire, suffisamment dans leur expertise des réseaux sociaux. Donc c'est aussi un de vos credos, Hugo Décrypte, faut faire confiance à ces voix-là. Alain Veil, puisqu'on se projette justement dans l'avenir, vous, c'est l'internationalisation qui est la chose qui en tout cas vous travaille, et notamment avec un nouvel outil qui est arrivé, qui est l'intelligence artificielle. Donc vous souhaitez construire au sein du groupe L'Express une internationalisation de vos contenus. C'est ça pour vous l'horizon du média.
Moi, j'ai repris L'Express il y a 5 ans. Bon, je savais que ce serait compliqué, mais je l'ai fait par passion, en me disant il y a des journaux qui arrivent à être redessés. Donc, je vais essayer d'assurer un avenir, une pérennité à ce
Le groupe n'est plus déficitaire,
journal.
Vous avez réussi votre
Alors,
coup.
Le journal est revenu à zéro. Bon, c'est un équilibre fragile parce que j'ai la conviction aujourd'hui, mais finalement, je me sens mieux depuis que j'ai compris ça, que l'avenir de la presse payante serait très difficile. C'est-à-dire que la presse gratuite est tellement importante, tellement de qualité aussi, que finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont prêts à payer pour avoir de l'information. Alors heureusement, nous, on est sur un créneau très haut de gamme, on s'adresse à des gens qui ont des très hauts revenus, donc qui ont 3, 4, 5 abonnements, qui ont une soif d'information sans limite, mais quand même, c'est très compliqué, et le marché ne croît plus, comme on aurait pu l'espérer il y a quelques années, mondialement. J'étais il y a quelques mois voir nos amis de The Economist, qui sont une référence importante pour L'Express, et ils constatent aussi que mondialement, le marché est beaucoup plus calme. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire en France,
sachant que si on ne bouge pas, on meurt. C'est ça aussi l'autre fondamental.
Voilà, donc nous, on s'adresse à un public de leaders d'opinion, finalement, qui est le même dans tous les pays européens. Et on s'est dit, on va faire l'Express Europe, c'est-à-dire en partant de l'Express France qu'on va européaniser, sans le transformer. On va faire une version européenne dans laquelle il n'y aura évidemment pas les affaires particulièrement franco-françaises. Et on va recruter des abonnés dans toute l'Europe, effectivement, en étant dans chaque pays, dans un site digital, dans la langue du pays. Donc on sera dans 24 langues, ce que j'ai découvert à cette occasion. Il y a 24 langues dans les 27 pays de l'Union européenne. Alors, on a testé le slovène la semaine dernière. Ça marche. Il y a encore quelques progrès. L'allemand et l'anglais, c'est parfait. L'espagnol, ça va très bien aussi. Il y a quelques langues qui sont encore un peu plus compliquées. Mais le temps qu'on démarre, j'imagine que l'intelligence artificielle aura encore progressé. Et donc, on va démarrer à la fin de l'année l'Express Europe, avec l'idée aussi que c'est plus facile de recruter 1000 abonnés dans chacun des 27 pays, c'est-à-dire 27 000 abonnés, que de recruter 27 000 abonnés dans un seul pays.
Dans un seul pays. Donc ça, c'est...
Par contre,
c'est
le challenge, c'est de faire un contenu qui intéresse vraiment tous les Européens.
Hugo Décrypte, vous, on a vu des youtubeurs comme MrBeast, le premier youtubeur du monde, faire de la traduction ces dernières années. Il s'est beaucoup développé comme ça, d'ailleurs. Vous, c'est quelque chose que vous envisagez au sein de votre média ?
Je trouve ça très intéressant. C'est vrai que d'autant plus sur les réseaux sociaux, on a aujourd'hui de plus en plus de plateformes qui elles-mêmes vont proposer ce genre d'outils. Alors Spotify, il me semble, il y a environ un an, avait annoncé qu'à terme, pour leur podcast, ils allaient proposer un doublage automatique dans toutes les langues. YouTube, il me semble, a évoqué des choses assez similaires. On a dès maintenant la possibilité de mettre plusieurs pistes audio. On l'a testé sur quelques interviews. J'avais fait une interview de Volodymyr Zelensky l'année dernière, une interview d'environ 45 minutes. On l'a publié en doublage français, on l'a publié aussi en anglais. Là, on est en train de tester aussi pour l'avoir dans d'autres langues, notamment en ukrainien. On l'a fait aussi sur d'autres interviews de Billie Eilish et d'autres personnalités ces derniers mois. Donc il y a un vrai potentiel, notamment pour ces interviews-là, qui je pense peuvent intéresser un public plus large.
Notamment parce que c'est dans la voix de la personne qui s'exprime en ukrainien, mais quand on l'écoute en français, c'est dans sa voix.
Vous restez avec nous, parce qu'après l'info, c'est l'avenir du ballon rond dont il est question. Dans un instant, on aura une petite dizaine de minutes pour régler tout ça. On se demandera si le football peut survivre, lui, sans business.
Listen to this, I got plenty to get off my chest. Busy titties but never big breasts. Don't expect me to try and impress. Yeah, second to none. Don't fit in the room of plus ones. Giving face like a tiger kitten. Can't be quiet and still confident. Shh, I shine and you get sunburn. That sounds like a you problem. Go ahead, slice your cake. Call it what you want. Pot in the kettle, both black is coffee. Sweet low, sweet chariot, these hoes ungodly. So if you don't mind, can I feel your heartbeat?
I really appreciate it.
Just like Farley, before we passed on, whole world watching me getting they laugh on. I'm the black sheep, burdened with the backbone, strong enough to carry us home.
Call it what you want, what you want.
Elle a 26 ans et c'est l'une des grandes nouvelles voix de la soul contemporaine, née d'une mère bangladaise et d'un père irlandais. Elle a pour habitude de chanter la mixité dans sa ville bien-aimée, Londres. Alors faites comme vous étiez, comme si vous étiez au pub avec Joy Crooks à l'instant sur France Inter et son titre « Pass the Salt ». Passe-moi le sel.
Mathilde Serrel, un monde nouveau sur France Inter.
Tant qu'à être au pub, autant regarder un peu de foot à la télé. Un autre foot est possible. C'est le titre d'un livre publié par les éditions Les Bordelots, signé Stéphane Beau, Vincent Mourgue, Jérôme Sadier, Jean-Luc Veissy et Timothée Duverger. C'est Timothée Duverger qui est avec nous, presque avec nous, puisque vous êtes en duplex de Bordeaux. Bonsoir Timothée.
Bonsoir.
En duplex de France Bleu Gironde, il est question de Bordeaux justement dans cette émission puisque c'est la situation du club historique de votre ville, le FC Bordeaux, qui vous a donné envie d'écrire ce sujet, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui, ça fait l'actualité en ce moment sur les questions de reprise des Girondins suite à sa rétrogradation dans l'équivalent de la 4e division l'année dernière, effectivement.
C'est un club de légende. Hein. Il y a eu entre autres Dugarry, Lizarazu, Paoletta, et même Zinedine Zidane, et qui s'est retrouvé cet été en National 2, la 4e division française, à cause de problèmes financiers. Qu'est-ce que ça raconte, ce symbole-là ?
Ben c'est le symbole en fait d'une dérive du foot business hein, qui n'a pas concerné que Bordeaux. Hein. Beaucoup de clubs se sont effondrés de la même façon. Hein. Je pense à Grenoble, Strasbourg, Le Mans, Sedan ou même Bastia. Donc beaucoup de clubs ont été concernés par des problèmes similaires. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que le propriétaire historique du club M6 est parti. Se sont succédés des fonds d'investissement, l'arrivée de Lopez, dans un contexte où, en plus, le modèle économique du foot français est en difficulté. Le club a quelque part perdu son âme hein, au milieu de ce au milieu de cette financiarisation du football, voilà. Donc et il est tombé effectivement en 4e division, ce qui est qu'un des plus grands clubs historiques français se retrouve en amateur, c'est ce qui est quand même significatif du désastre en cours.
Le modèle économique du football professionnel tel qu'il existait est mort, c'est ce qui est écrit dans votre livre. Dans votre livre, vous croyez un modèle libre justement du business alternatif pour les clubs, des coopératives par exemple, ça fait partie des options.
Oui, en tout cas, le fait que le modèle économique soit mort, à vrai dire, c'est même la DNCG, donc qui est l'instance de contrôle hein, en matière économique du football, qui le dit, à vrai dire. Hein, donc parce que il y a un déficit chronique et structurel du football professionnel en France. Hein, c'était encore pour la saison dernière 1,2 milliard d'euros. L'année d'avant, c'était des chiffres équivalents, seulement rattrapés par le fait que, eh bien, on a vendu nos pépites, c'est-à-dire qu'en fait, on a vendu pour 800 millions d'euros de budget pour de joueurs, pardon, oui. Pour équilibrer le budget. Voilà, donc c'est quand même ça un peu le problème, on va dire, qui est en cours. Et donc la question, effectivement, c'est comment on arrive à reconstruire un modèle économique.
Parce qu'on ne pourra pas toujours compter sur les joueurs qu'on peut vendre, c'est ça, c'est très aléatoire.
Non, comme... à la fin, il ne va pas en rester beaucoup, c'est surtout ça, effectivement, parce qu'ils partent dans les plus grandes ligues, hein, parce qu'il y a une forte polarisation hein, actuellement du football autour de quelques clubs. En France, c'est le PSG hein, qui gagne chaque année le championnat de France. Et puis après, ça se polarise également entre les ligues. En particulier, c'est la première ligue, évidemment, qui se montre très attractive, hein, tant pour les joueurs d'ailleurs que pour les droits télé. Hein. Donc il y a un enjeu effectivement à reconstruire un modèle économique du foot français, et notamment sans doute de limiter, en fait, de faire ce qu'on appelle un salary cap, c'est-à-dire un plafonnement des salaires hein, pour arriver à équilibrer, au moins à limiter les dépenses hein, des clubs. Et ça peut amener aussi à de nouveaux modèles économiques hein, pour les clubs. Et effectivement, il y a des alternatives, notamment coopérative, hein, mais plus généralement qui relève de l'actionnariat populaire et de l'implication des territoires hein, dans la gouvernance et dans le financement des clubs, qui me semble intéressante.
Et des fans, en fait, l'idée, on parlait tout à l'heure de modèle économique où il y a eu aussi une transparence, une interaction avec les fans, c'était pour l'information. Là, ça peut aussi fonctionner pour un club de foot, on pourrait impliquer les fans. Par exemple, je crois que ça se fait au Sporting Club de Bastia ou dans les clubs espagnols, les socioclubs.
Oui, alors à l'étranger, à vrai dire, ce sont des modèles qui ont pu exister. Alors il y a quatre clubs hein, espagnols, dont des grands clubs effectivement où c'est le cas. Mais bon, ce sont des clubs qui ont un autre modèle économique et qui le permettent. Il y a surtout le cas de l'Allemagne qui est intéressant, avec un modèle qui s'appelle 50+1, enfin qu'on décrit comme le 50+1. C'est-à-dire qu'en fait les supporters sont dans le gros des clubs allemands sont majoritaires en fait. Hein, c'est cette idée-là. Et en France, il y a des expériences intéressantes. Hein. Alors il y a des ouvertures à ce qu'on appelle l'actionnariat populaire, donc ouvert aux supporters dans certains clubs. Hein, par exemple, les Calons de l'En Avant Guingamp. Hein, c'était la direction du club qui avait fait cela. Et puis, il y a des projets hein, de reprise. Actuellement, bon, il y a des projets, les Girondins sociaux, par exemple, pour Bordeaux. Il y a les sociaux verts également. Il y avait les sociaux verts hein, qui s'étaient montés à Saint-Étienne. Et puis, il y a des transformations en coopératives, hein, effectivement. Alors, le cas de Bastia en 2019, hein, suite là aussi à l'effondrement du club, à sa relégation. Et les supporters, effectivement, ont mis à la main à la poche avec, en fait, une alliance entre les supporters et deux grandes familles, notamment Corse, hein, qui ont souhaité défendre ce club, qui est un véritable patrimoine hein, pour leur territoire, avec toute une histoire hein, de l'épopée européenne de la fin des années 70, où ils étaient arrivés en finale de la Coupe d'Europe, jusqu'à la catastrophe dramatique de Furiani avec l'effondrement d'une tribune au début des années 90. Donc pour Bastia, évidemment, c'était fondamental d'arriver à se mobiliser autour du club avec des enjeux identitaires. Mais ça se retrouve dans d'autres clubs. Sochaux, par exemple, l'année dernière, a créé une coopérative également, même si la coopérative porte plutôt sur le centre de formation, en l'occurrence, et non sur le club professionnel dans le cas de Sochaux.
La coopérative au sein du PSG, ça paraît quand même un peu loin, un peu utopiste, non?
Qatari et coopérative font peut-être pas bon ménage spontanément.
Qatératif,
je pense qu'on est sur deux modèles un peu différents, effectivement. Là, on est plutôt du côté d'une forme de capitalisme autoritaire, s'agissant du Qatar et du PSG, alors qu'effectivement, dans les autres projets, on est plutôt sur des formes de démocratisation et de reterritorialisation des clubs, comme d'ailleurs l'appelait un rapport récent du Sénat.
Du sénateur Michel Savin, sénateur LR. Mais vous avez fait ce lien aussi entre l'ennui des spectateurs et le foot business. Qu'est-ce que ça a dégradé en termes de proposition de spectacle ?
Alors ça, c'est un texte effectivement de Stéphane Beau, hein, qui est un grand spécialiste du sport, qui nous a livré son texte donc dans le livre, et qui effectivement montre que la pression financière finalement autour des clubs pousse à une logique de la victoire à tout prix, qui atteint jusqu'au jeu lui-même. Et ça se retrouve par exemple avec, il décrit avec beaucoup de pertinence et avec un peu d'irrévérence aussi. Cela avec par exemple
le cas des fautes. Du mal. Il ose dire voilà. Du mal de l'obsession pour l'efficacité au football.
Ben c'est ça, il dit, ben voilà, au fond, pour gagner, l'anti-jeu est devenu légitime d'une certaine façon, alors qu'avant on s'en indignait. Aujourd'hui, on considère que c'est des fautes intelligentes, par exemple, quand on retient des joueurs lors de contre-attaques, puisque en fait, il y a un pressing très fort sur les joueurs, de sorte que les espaces de jeu sont extrêmement rétrécis, et donc on joue beaucoup en contre, et pour éviter la contre-attaque, eh bien, on attrape le joueur qui part, et on l'empêche d'aller marquer un but, on prend un carton jaune, mais c'est une faute intelligente. Ou alors, comme on interprète la main maintenant, la main n'est plus volontaire, peu importe qu'elle soit volontaire ou pas, finalement, eh bien, il suffit de viser la main de l'adversaire dans la surface de réparation et on obtient un pénalty et comme ça, on peut espérer gagner. Bon, donc finalement, l'anti-jeu devient un peu la norme et ça produit un jeu aussi très aseptisé à bien des égards, avec un jeu où il y a beaucoup où finalement le jeu de passe qui peut durer très longtemps est survalorisé. Hein, c'est le jeu à la Guardiola, on va dire, hein, même si lui aussi montre ses limites actuellement à Manchester City, mais en tout cas il y a effectivement une aseptisation du jeu et l'anti-jeu quelque part qui domine en effet.
Alors si je résume, hein, avec les clubs, donc des fans qui vont se désengager puisque c'est moins lié aux fans dans la région, avec un jeu qui se dégrade et en plus des gens qui regardent de moins en moins, donc on est sur un cercle vicieux parce qu'il y a l'évolution des droits TV qui sont en chute libre et qui sont en fait le cœur du financement des clubs.
Bien sûr, c'est pour ça que on a voulu faire effectivement cet ouvrage d'interpellation, hein, pour montrer que finalement, non seulement le modèle économique du football professionnel français est en danger, que pareil, enfin même il est, à vrai dire, il s'effondre. Enfin, c'est un constat largement partagé et on voit bien qu'on va droit dans le mur. Deuxièmement, effectivement, on observe que le jeu lui-même est atteint par cela. Et donc, c'est pas qu'une question de valeur, finalement, de perte de valeur et que l'on déplorerait avec nostalgie. C'est tout simplement le sauvetage du foot français qui est devant nous avec ces enjeux-là, finalement. Et donc, on essaye effectivement d'ouvrir un ensemble de pistes, hein, en disant qu'il y a nécessité à mieux réguler les clubs, à éviter finalement de sombrer dans le tout financier, hein, dans le foot business à tout prix, à éviter les groupes multipropriétaires, à éviter les fonds d'investissement et à reterritorialiser ces clubs, à faire en sorte que les territoires, les écosystèmes territoriaux s'impliquent, les acteurs économiques locaux, les supporters, voilà, soit au cœur de la vie des clubs.
Pardon, hein, je suis désolée de vous couper, mais l'heure tourne. On a Alain Veil avec nous qui connaît bien ces histoires de droit, puisqu'il a géré au sein du groupe Altice, le groupe d'SFR, aussi la négociation de ces droits de diffusion du foot. Merci Timothée Duverger d'avoir été avec nous. Un autre foot est possible, c'est votre slogan et votre livre aux éditions Les Bords de l'eau. C'est un ouvrage collectif, je le rappelle. Et donc je remercie aussi nos confrères de France Bleu Gironde en duplex. Grand merci donc à Alain Veil, je parlais de vous à l'instant, propriétaire de l'Express. À la une cette semaine, nucléaire, 15 ans de débâcle. Et merci à Hugo Travers, alias Hugo Décrypte sur les réseaux, tout juste rentré de Washington et du bureau Oval. On peut vous suivre partout et vous écouter en podcast, notamment les actus du jour. Grand merci à toute l'équipe d'Un Monde Nouveau. La rédaction en chef, c'est Redouane Tella. La réalisation, c'est Frédéric Milano. La préparation, Marion Philippe. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Et à la technique, cette semaine, Mathias Alléon.